On trouve dans la Bible des récits surprenants, des récits qui nous bousculent, qui nous interpellent. L'histoire de cette transfiguration en fait partie. On a un peu de mal à imaginer un Jésus qui commence à étinceler de lumière comme une lampe qui s'allume et qui discute avec Moïse et Élie au sommet d'une montagne. Alors non, il ne s'agit ni d'un miracle ni d'un fantôme. Qu'est-il arrivé aux disciples? Qu'ont-ils vu? Ont-ils eu une expérience mystique? Ont-ils vu Jésus avec une vraie apparition alors qu'il était avec eux quelques instants juste avant? Transfiguration vient du mot grec métamorphosis, la métamorphose. Le Nouveau Testament nous dit que Jésus fait davantage que changer d'apparence. Il passe par une sorte de métamorphose. Il s'est transformé. Dit d'une autre manière, on pourrait dire que cette métamorphose représenterait Dieu qui se donne à voir à nous. Dieu qui se révèle en tout simplement apparaissant pour nous. Mais ce n'est pas la première fois, ce n'est qu'une fois de plus, souvenons-nous. La scène qui est ici, vraiment devant nous, n'est pas surnaturelle. Par contre, elle se conjugue avec un certain symbolisme. Et c'est une vraie mise en scène dans l'espace et dans le temps. Si on regarde le texte, on s'aperçoit que, d'abord, on est dans un lieu très particulier. Il est dit qu'on monte sur une haute montagne. En fait, l'altitude ne dépassait pas 600 mètres, c'était une colline, car on pense qu'en fait, il s'agissait du mont Tabor. Et ce n'est pas mont à bord, non, c'est le mont Tabor. Petit jeu de mots. Non, le récit nous parle d'une montagne. Et c'est le symbole de la montagne qui est intéressant. Jésus prononce, souvenez-vous, son fameux sermon sur une montagne. C'est également que Dieu se révèle à Abraham, à Moïse, à Élie, pour faire des révélations. C'est donc, ça s'inscrit dans la tradition de ce qu'on appellera les révélations. La montagne est liée à la volonté de Dieu, à la loi qu'il veut nous faire entendre. La montagne est le lieu de rencontre entre le ciel et la terre. Le point de jonction où l'homme se retrouve face à sa propre conscience. C'est sur le mont Sinaï que Moïse recevra les tables de la loi, qui sont des règles de vie pour ne pas se perdre. Et cette petite colline pour le géographe est en fait une très haute montagne du point de vue de la foi. Après l'espace, le temps. Souvenez-vous, les 6 jours. L'Écriture nous dit que le récit de la Transfiguration se passe 6 jours après cet épisode où Jésus a annoncé à ses disciples qu'il allait bientôt souffrir, mis à mort et ressuscité 3 jours après. Pierre a d'abord réagi en s'y opposant, et les disciples n'avaient pas encore bien compris ce que Jésus voulait leur dire. Pierre s'est retrouvé dans une situation où il n'a pas tout compris. Nous allons voir que c'est la raison pour laquelle ils sont tous effrayés, peut-être. Qui sont Pierre, Jean et Jacques? Rappelons-nous, ce sont les 3 disciples les plus proches, le cercle le plus intime autour de Jésus. Et Jésus les prend toujours avec lui pour les moments les plus critiques, les moments qui ont de l'importance. Tout se passe là, en fait, c'est fait pour eux et pour leur témoignage ensuite. En effet, bientôt, ils vont être confrontés à l'arrestation de leur maître, à la peur, aux persécutions, au deuil et à la mort. Et il est important, face à tout cela, à tout cela, à tout ce côté sombre qui attend Jésus, eh bien, d'apporter un contraste et d'apporter un surplus de lumière. L'ombre et la lumière, on pourrait faire toute une prédication sur l'ombre et la lumière. Mais on en a un très bel exemple aussi. Il fallait les assurer que Jésus, quoi qu'il arrive, sera un vainqueur sur toute la ligne, quoi qu'il arrive. La transfiguration est en fait une sorte d'injonction de vitamine pour aider les disciples à supporter l'épreuve de la croix, pour les préparer aux jours les plus sombres, mais pour leur affirmer qu'après ces jours les plus sombres, Jésus restera vainqueur. Alors lorsque le Christ les appelle à l'écart pour les accompagner sur la montagne, il recherche aussi avec eux un temps un peu à part, un temps de recul par rapport à ce monde et aux préoccupations quotidiennes, un temps comme parfois nous devons nous en offrir, de retraite spirituelle ou de contemplation. La montagne est un lieu propice pour méditer, pour prier. La descente de la montagne sera ensuite le retour à l'action, le retour dans le monde. Dans notre vie aussi, je pense que vous partagez avec moi ce besoin qu'il y ait de toute façon une alternance entre la réflexion et l'action, entre le temps de recul et le temps de l'engagement. Que se passe-t-il ? Une vision fugace apparaît alors et Jésus fut transfiguré devant eux. La blancheur rayonnante de Jésus symbolise une conscience soudaine et extrêmement lumineuse de la nature profonde d'un Dieu présent, là, à ce moment-là. La présence même de Dieu, ce que les spécialistes appellent une théophanie, comme nous l'avons eu dans le buisson ardent avec Moïse, et puis maintenant, après la voix divine qui s'était fait entendre de Jésus baptisé dans les eaux du Jourdain, et puis celle qui s'adressera plus tard, souvenez-vous, et là on en parlera à Pâques, aux femmes dans la tombe désertée du crucifié. Jésus reste en dialogue avec Moïse et Élie. Arrêtons-nous aussi sur ces deux personnages. Pourquoi Moïse ? Pourquoi Élie ? Moïse représente la loi. Élie représente les prophètes. Au-delà d'un certain anachronisme, Jésus est avec eux, à égalité à ce moment-là avec eux, semble-t-il. Il faut se souvenir que dans la tradition juive la plus ancienne, eh bien, on attend le retour d'Élie, lui qui est à côté de Dieu pour porter sa parole. Le cycle d'Élie dans la Bible est jalonné de gestes et de paroles qui ont de quoi le rapprocher de Moïse. Le porteur de la loi et le porteur de l'observance de cette loi sont à rapprocher dans un duo qui pourrait signifier que Moïse fait connaître un Dieu libérateur et que Élie nous transmet le comment, nous montre comment vivre de cette liberté. Du principe à l'action. Alors si Jésus apparaît à égalité avec Moïse et Élie, c'est peut-être pour nous dire qu'il n'est pas suffisant de se conformer à la loi et qu'il n'est plus nécessaire d'attendre le retour d'Élie. Autre petit commentaire, Moïse, Élie et Jésus ont un point commun. Vous ne savez pas lequel ? C'est qu'il n'y a pas de tombe, ou que la tombe est vide, ou qu'on n'a pas retrouvé la tombe. Moïse est soi-disant enterré dans la plaine de Moab, mais le Deutéronome nous dit qu'on n'a jamais retrouvé son tombeau. Quant à Élie, il est enlevé au ciel sur un char de feu. C'est très poétique. Je vous recommande d'ailleurs ce texte d'Élisée qui parle de cela. Et Jésus, bien entendu, vous connaissez la suite. Donc dans les trois cas, on peut dire qu'il y a une ascension. Dans les trois cas, il y a une disparition du corps physique sur la terre pour une montée vers le ciel. Élie leur apparut avec Moïse et ils s'entretenaient avec Jésus. Quel est le sujet de leur discussion ? La réponse ne se trouve pas dans le récit que nous venons de lire. Il se trouve dans Luc 9, 28-36, où il est dit qu'il parlait de son départ à Jérusalem. Et là, ils utilisent le mot « exodos », c'est-à-dire « exode ». Cette référence à l'exode peut être d'ailleurs mise en parallèle avec ce qui était la fête des cabanes à l'époque, ou la fête des tentes, le souvenir des habitations précaires après la sortie d'Égypte. La tente est l'habitation des nomades, de ceux qui ne se fichent pas en terre. C'est l'habitation usuelle des scouts. La tente est la demeure idéale pour ne pas demeurer, pour être prêt au départ, prêt à poursuivre sa route. Le départ pour Jérusalem, c'est l'annonce à Jésus de son destin immédiat à venir, de sa marche prochaine vers Jérusalem, vers la souffrance, vers la mise à mort, vers la croix. Quel symbole important pour Carême, n'est-ce pas ? La vision, nous l'avons vue, elle est fugace. Elle ne dure que quelques secondes. Et Jésus demeure ensuite seul, et Moïse et Élie s'effacent. Pour nous, cela peut signifier que Jésus n'est plus seulement à égalité avec Moïse et Élie, qu'il les surpasse quelque part, qu'il passe devant au premier plan. Cela symbolise le fait que le Nouveau Testament est une révélation. Il finit par primer sur l'Ancien Testament. Le Dieu vengeur de l'Ancien Testament devient le Dieu sauveur du Nouveau Testament. Jésus est transfiguré comme Moïse a été transfiguré, et Jésus devient en quelque sorte une sorte de nouveau Moïse. Alors sur Pierre, non pas Pierre que nous remercions d'avoir lu le texte, mais Pierre dans, parmi les disciples. Alors lui, il aimerait prolonger ce moment sur la montagne. Et il dit à Jésus, si tu veux, hein, c'est pas, il impose rien, si tu veux, je vais dresser ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Trois tentes les unes à côté des autres. Il voudrait organiser une sorte de partie de camping et surtout rester là-haut, le plus longtemps possible. Si vous aimez la montagne, vous devez comprendre qu'on n'a pas souvent envie de redescendre. Pierre veut faire de la tente un lieu un peu immobile et définitif, alors que la tente est un lieu provisoire, celle du nomade, de ceux qui se mettent ensuite en mouvement. Pierre propose que la loi et les prophètes et ce que représente Jésus devraient être un peu institués comme des statues un peu immuables. Et là, un coup de théâtre. Un coup de théâtre se produit et de la nuée, donc ces nuages qui enveloppent, sortit la voix de Dieu. On l'imagine très forte. Dieu ne dicte plus les 613 mitzvot ni les 10 commandements, mais il dit simplement « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » On passe de la loi écrite à la loi orale. On passe des tables de la loi gravées dans le marbre à la parole. On passe à une parole que l'on peut comprendre, et nous dirons un peu plus tard dans l'histoire une parole que l'on peut interpréter plus librement au XVIe siècle. Et c'est vrai que on peut dire que Jésus nous parle et que nous sommes appelés tout simplement à l'écouter. Le dialogue avec Moïse et Élie fait place au message de Dieu à travers Jésus transfiguré. Alors oui, cela ne va pas être une partie de plaisir. Oui, Jésus devra faire face à la souffrance et à la mort. Mais oui aussi, Dieu pourra sauver Jésus du mal. Dieu assure à Jésus qu'il doit garder confiance, comme Dieu nous assure aussi, ici et maintenant, nous qui sommes appelés à confier à Dieu notre route. Dieu nous assure aussi que nous serons sauvés par notre foi. La vision est fugace, elle est inscrite dans le temps. En revanche, la parole, elle, n'est pas inscrite dans le temps, elle est intemporelle. C'est vrai qu'elle a été écrite et qu'elle nous a été transmise. De ce point de vue-là, elle devient intemporelle. Et c'est pourquoi la parole qu'entendent les disciples, elle est finalement supérieure à une vision de quelques secondes, la vision de l'événement. L'envie de Pierre va se métamorphoser, puisqu'au lieu de s'installer, ils vont tous redescendre de la montagne. Alors qu'ils étaient tombés tout à fait effrayés contre terre à la vue de cette superbe lumière, les disciples sont relevés par Jésus qui les rassure et leur permet de reprendre leur route. Et là, on va reparler, comme je disais en introduction, du temps de la réflexion et du recul au temps de l'engagement et de l'action dans le monde. Sa parole est sortie de la nuée, cette nuée qui nous enveloppe pour nous donner confiance, comme une sorte de couverture quand nous avons froid. La nuée symbolise l'esprit qui descend sur nous, sur toutes, sur tous, et nous assure l'universalité de la grâce. La grâce est pour tous et pour toutes. Alors cette fameuse fête des cabanes, elle représentait un peu le chacun pour soi, hein, les tentes les unes à côté des autres, sans vraiment une réelle rencontre possible entre les uns et les autres. La nuée, au contraire, apparaît comme le lien qui, par la parole, nous unit et nous invite à aller de l'avant ensemble, de marcher tous ensemble. Alors nous aussi, Dieu nous invite à nous relever, à commencer à ressusciter ici et maintenant. Et en grec, c'est le même mot, se relever et ressusciter. Nous aussi, Dieu nous appelle à vivre notre foi dans le monde, au contact des autres, dans la réalité de chaque jour, porteur de la parole qu'il a lui-même portée jusqu'à nous, et pas seulement dans des retraites contemplatives. On ne peut pas donner et partager que ce que nous avons nous-mêmes reçu. S'arrêter, contempler, puis repartir, aller de l'avant pour mieux rejoindre les autres. Avancer, oui, sans peur et sans crainte, en s'appuyant sur notre foi. Voilà le message de la Transfiguration. Gardons toujours courage, à cause de la lumière éclatante qui rayonne de Jésus transfiguré, et qui peut émaner de chacun d'entre nous également les croyants. Quel beau compliment peut-on entendre quand on dit de quelqu'un qu'il rayonne. C'est un peu cette image. Vous savez, au Moyen-Âge, sur les tableaux, sur les vitraux, on voit souvent une auréole, un disque derrière la tête. Eh bien, cela voulait dire très clairement la même chose. Ils étaient habités d'une lumière vive, reçue d'en haut et qui rayonnait autour d'eux. Ce disque lumineux autour de la tête voulait dire « Voilà quelqu'un qui a su laisser vivre en lui la clarté majuscule de Dieu et qui sait aussi la diffuser autour de lui par ses paroles et par ses actes. » Pourtant, aller de l'avant, ce n'est pas forcément foncer tête baissée. Hein. Nous devons sans cesse repenser Dieu. Nous devons revenir parfois en haut de la montagne et nous arrêter, prendre du recul, nous reposer, comprendre comment transformer le monde plutôt que de le transformer à outrance. Chacun connaît ces moments de doute où l'on scrute le ciel et où l'on ne comprend pas le sens du mal, où l'on souffre de la haine, d'une mauvaise santé ou de bien d'autres maux, comme en ce moment dans mon introduction, quand je vous ai dit, dans le mot de bienvenue, que l'actualité n'était pas très réjouissante. Mais dans un cas comme dans l'autre, le message de Dieu est clair. Il nous désigne Jésus en nous disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Ce qui est caractéristique de ce récit de la Transfiguration, c'est Jésus qui est à la fois pleinement homme et pleinement Dieu. La Transfiguration est donc au centre de la foi chrétienne comme elle est au centre de l'Évangile de Marc. Se mettre à l'écoute de Jésus, c'est prier. C'est avant tout et surtout se mettre à l'écoute de sa parole, la lire, la méditer, la transmettre. Tout cela pour qu'elle nous métamorphose à notre tour. Le mot transfiguration, c'est métamorphose. Qu'elle nous métamorphose, ni en haut, à nous dresser une tente dans des jardins un peu idéalisés du Seigneur, ni en bas, à essayer de nous débattre pour trouver des solutions à des problèmes du monde. Mais plutôt à l'invitation de Jésus, tantôt en haut pour nous ressourcer, nous recharger de l'énergie de la foi, et tantôt en bas pour apporter la force et le sens qu'il nous a donné. Partir avec le Christ, c'est avoir le courage de vivre, de s'adapter, d'avancer avec confiance, car nous avons un Dieu qui nous est fidèle. Écouter Jésus, c'est devenir rayonnant à notre tour, rayonnant de joie et de paix, rayonnant de foi, d'espérance et d'amour. Et le grand pari de la foi, et le grand pari finalement de notre vie, c'est que ce rayonnement puisse être transmissible, puisse influencer ceux qui seraient un peu trop ignorants de cette bonne nouvelle. Alors comme Pierre, Jacques ou Jean, nous sommes appelés à devenir les témoins de l'alliance que Dieu conclut avec ses enfants en Christ. Grâce à l'Esprit de Dieu, grâce à la lecture de la parole, nous pouvons commencer à être transfigurés nous-mêmes. Nous pouvons devenir des signes visibles de cette nouvelle alliance qui sauve et qui rend lumineux. Comme nous sommes invités à prendre le temps de la méditation, de l'écoute et de la prière, afin d'être nourris par l'Évangile et pouvoir ainsi apporter un peu de tendresse à notre monde, nous sommes aussi invités à aller de l'avant, à sortir de nos lieux, immuables, de nos zones de confort, on dirait aujourd'hui, et de nos temples, pour être des témoins de l'amour du Père. Dieu nous transfigurera aussi et nous deviendrons source de lumière. Dieu pourvoira à nos besoins en toutes choses et nous apportera la joie, la force et la paix sur notre chemin. N'ayez donc pas peur de vous mettre en marche vous-même. Dieu vous couvre de sa nuée et vous inonde de sa lumière. Que nous soyons ainsi prêts à nous lever et à nous mettre en marche, et Christ nous guidera vers de verts pâturages, vers les eaux paisibles du royaume de Dieu. Seigneur, donne-nous la force de nous bouger, d'accepter de sortir de nos tentes, de partir et d'avancer. Fais de nous, à notre tour, des sources de lumière, des sources de tout bien, quoi qu'il arrive. Amen.